Chapitre 16. Voilà une semaine que je tente de me préparer psychologiquement. Dès que j'ai su que cela allait avoir lieu, la pression est montée. J'alterne entre impatience et angoisse. Cette nuit, je n'ai pratiquement pas dormi. Je n'ai pas cessé d'y penser. J'imagine tellement de choses que j'en suis épuisée. Le docteur dit que c'est le bon moment, que je peux désormais assumer cette importante stimulation. C'est une étape cruciale vers un retour à une existence normale. Je vais redécouvrir une part essentielle de ma vie et du même coup, un peu de ce qui fait ma place dans ce monde. Car je me le demande tous les jours, quelle est donc mon utilité ici-bas? Comme tous les matins, j'ai pris une douche. Même après avoir accompli ce rituel des dizaines de fois, je redoute toujours qu'une mangue me tombe dessus du plafond ou qu'un malade ne débarque avec sa machette. Puis, j'ai enfilé ma culotte. Je n'ai pas mis que ça parce que j'ai compris qu'il était préférable d'ajouter d'autres vêtements par-dessus pour ne pas provoquer de problèmes dans la rue. Ensuite, pour la première fois depuis l'accident, je suis allée au boulot. C'est donc cela un lieu de travail? Depuis le temps que l'on m'en parle? C'est ici que, selon l'expression consacrée, je gagne ma vie. Cette notion m'étonne. Comme si le fait de naître n'était pas suffisant pour avoir le droit d'être vivant. Tout paraît si simple quand on ne sait pas grand-chose. Je suis impressionnée par l'endroit, mais surtout par tout ce qu'il représente dans l'organisation de nos existences. Voici donc l'un des innombrables lieux où des humains s'associent pour mettre leurs compétences en commun afin d'être utiles à leurs semblables. J'aime beaucoup l'idée de travailler ensemble pour résoudre ou améliorer. L'établissement où j'exerce ma fonction est plutôt joli. Alors que la mairie est un bâtiment très moderne et entièrement réduit à son utilité, l'ambiance de cette dépendance voisine est différente. Il s'agit d'un petit manoir, comme ceux des films où les hommes portent la redingote et le haut de forme, et les femmes des robes qui balaient le sol. Cette grande maison bourgeoise constitue une sorte de voyage dans le temps. Un perron surmonté d'une marquise, de hautes fenêtres ornées de garde-corps ouvragés, un toit pentu hérissé de petites cheminées, des façades sur lesquelles grimpe une vigne vierge. Les gens qui habitaient ici jadis n'étaient manifestement pas des pauvres. Ils devaient accueillir leurs invités du haut de ces marches. Peut-être ces élégants convives arrivaient-ils en calèche ou en traction? J'ai vu ce genre de scène dans un chef-d'œuvre où tout le monde pleure en secret parce qu'en dépit des apparences, personne n'aime sa vie. Pendant que les drames se nouaient à l'intérieur, dehors, insouciants, les enfants jouaient au cerceau, se cachant dans les fourrés, comme moi au mariage. Ils se faisaient d'ailleurs disputer de la même façon. À l'intérieur, le charme opère également. On n'a pas l'impression d'être dans un bâtiment triste, comme l'hôpital ou froid, comme le supermarché. Il n'y a rien d'industriel. L'architecture engendre une atmosphère rassurante et familiale. En lieu et place de ce qui fut l'entrée d'honneur avec son escalier, on trouve un hall d'accueil et une salle d'attente. Partout, du bois, du cuivre, des cheminées de marbre, autant d'éléments et de matières qui n'existent plus dans nos habitations modernes. Le salon, l'office et une salle de bain ont été transformés en un grand espace ouvert où sont agencés une demi-douzaine de bureaux. Deux zones sont clairement délimitées, celle où le public peut accéder au comptoir d'accueil et, à l'arrière, au-delà de paravent, une autre, où nous traitons les dossiers. Avant même l'heure d'ouverture, des femmes s'affairent et des téléphones sonnent. Ça sonne tellement de partout que je me demande un instant si nous ne sommes pas des fabricants de sonneries. Sur les murs, dans la partie publique, des affiches pour arrêter de fumer, parler de la maltraitance, de maladies dont j'ignore tout, ou d'organismes officiels que l'on peut joindre en cas de nécessité. Je n'y comprends rien. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Par contre, sur les bureaux, à côté des écrans d'ordinateur, je remarque souvent des photos de jeunes enfants ou des cartes postales de pays lointains où il fait beau et chaud, ainsi que des bidules qui me rappellent mes trésors dans mon tiroir. Sans doute ces babioles ont-elles autant de sens pour ceux qui les exposent que la petite toupie pour moi. Plus je redécouvre le monde, plus je m'aperçois que nous sommes une espèce qui s'attache aux objets dès qu'ils nous rappellent des gens ou des sentiments. Lucie, Mélanie et moi travaillons pour le service social de la commune. Si j'ai bien compris, nous nous occupons de tout ce qui ne va pas dans la vie des gens. Quand nous n'avons pas directement la solution, nous guidons les administrés vers les services adéquats. Lucie, ayant un poste trop différent du mien, c'est Mélanie qui m'accompagne ce matin. Elle n'a pas du tout la même façon de présenter les choses que Lucie. Avec elle, les explications sont carrées, synthétiques, efficaces. Lucie, ce n'est pas pareil. À peine ai-je franchi le seuil que Mélanie m'accueille et m'entraîne dans la zone qui nous est réservée. Pas mécontente de devoir revenir, Laura. Sans toi, rien n'est pareil. Je regarde autour de moi sans savoir quoi répondre.
D'habitude, tu es avec nous sur le plateau avec les assistantes sociales. Ton bureau est celui-là, le plus loin de la fenêtre parce que tu te méfies des snipers. On se relaie à tour de rôle au poste d'accueil pour recevoir le public, pendant que les autres assurent le suivi à l'arrière.
D'accord.
Pour ta reprise, on va te maintenir en retrait. Et dans un premier temps, tu te contenteras de me suivre sur des études de dossier.
Tu n'as pas encore assez récupéré pour affronter le public.
Affronter le public? Tu comprendras vite de quoi je parle.
Il faut des nerfs pour encaisser ce qui bouleverse ou ce qui énerve. D'habitude, tu es la meilleure à ce sport de contact. Notre première ligne. Tu parviens à garder ton calme face à n'importe quelle situation. Depuis que tu es hors jeu, on est tout un peu sous pression.
Les personnes présentes, probablement mes collègues, me dévisagent plus ou moins franchement comme une bête curieuse. Certaines me font des signes, mais aucune ne se donne la peine de venir jusqu'à moi. Je trouve cela étrange. On ne se dit pas bonjour dans une entreprise?
Si, mais tout le monde a reçu la consigne de ne pas te perturber.
Sans ça, tu vas te prendre des tonnes de questions tordues et des commentaires étrangers, tu vas t'y perdre.
D'accord.
Viens, on a rendez-vous avec la directrice du service. Elle veut te voir.
Elle ne va pas me sermonner, au moins. Tu ne lui as rien dit pour les bonbons au mariage.
Mélanie, pouf.
Ne t'en fais pas. C'est une crème.
On monte deux étages et au bout d'un étroit couloir, on frappe à une porte sur laquelle une plaque annonce « Service social, Valérie Perrin, directrice ».
Elle doit être super importante, parce que nous, en bas, on n'a pas nos noms écrits comme ça.
D'ailleurs, on n'a même pas de porte.
Oui ?
Mélanie entre. Je la talonne comme une gamine qui craint d'être semée.
Il est rigolo, le bureau de Madame Perrin. Le plafond est en pente jusqu'au sol.
Si la bâtisse était encore une maison, on se retrouverait certainement au grenier. Autour d'un modeste plan de travail s'accumulent des armoires disparates, de toute taille, gavées de dossiers. Au pied, des piles de prospectus. Sur les murs inclinés, des tableaux de chiffres et des notes multicolores. Madame Perrin n'a pas dû faire des études de rangement. En me souriant chaleureusement, elle se faufile et vient directement prendre mes mains entre les siennes.
Je suis bien contente que tu reprennes, Laura. Tu nous as manqué.
Sa voix est douce, posée. Mon absence de réaction la déstabilise. Elle recule légèrement et consulte Mélanie du regard.
Elle ne te reconnaît pas, précise celle-ci.
Madame Perrin porte ses mains à sa bouche comme si elle allait se les manger. J'ai déjà assisté à ce genre de repli sur soi, qui vise symboliquement à étouffer un ersatz de cri d'effroi.
Cela dénote chez l'individu un sentiment de panique.
« Ne vous inquiétez pas, lui dis-je. Les données de ma mémoire ont été effacées, temporairement, je l'espère, mais les systèmes de raisonnement sont opérationnels. Je vais tout réapprendre en un rien de temps. » Elle n'ose plus me toucher. « D'habitude, on se dit « tu ». Vous ne vous souvenez pas ? De temps à autre, on va même courir ensemble. Courir ? Toutes les deux ? Après quoi ? »
Mélanie soupire. « Vous essayez de courir assez vite pour laisser vos fesses derrière vous. »
« Ne la brusquons pas, » tempère la directrice.
« Je te la confie, Mélanie. S'il y a quoi que ce soit, monte me voir directement. »
L'autre porte de la mansarde s'ouvre tout à coup et une femme entre en trombe. Elle est tellement énergique qu'on s'attend à ce qu'elle hurle « Au feu !»«
Madame Perrin, j'ai des courriers à vous faire signer, il faut qu'ils partent ce matin !»
La directrice assombrit. « Floriane, combien de fois faudra-t-il vous dire de frapper avant d'entrer dans mon bureau ? Je suis en rendez-vous. »
« En rendez-vous ? Mais c'est Mélanie et Laura ! Oh, au fait, salut Laura ! Ça va mieux la tête ?»
Madame Perrin grimace et lui fait signe de sortir. Je demande discrètement à Mélanie. Elle signe tous les courriers. Floriane les écrit et Valérie les signe. Valérie ne sait pas écrire et elle est quand même directrice ?